consulter votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros les minutes. 3230, France Inter au bout du fil.
Et puis les courses à Toulouse, arrivée provisoire du Quintet Plus engagée dans la première, 10, 13, 14, 8 et 5. 14h03 sur France Inter, Patrice Gélinet, 2000 ans d'histoire.
Bonjour, aujourd'hui, 60 ans après sa mort, une des figures les plus importantes de l'histoire du XXe siècle, Franklin Roosevelt.
I, Franklin Delano Roosevelt, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States. So help me God.
D'histoire. Le serment traditionnel que l'on vient d'entendre et que prêtent tous les présidents des États-Unis le jour où ils entrent à la Maison Blanche, Franklin Roosevelt aura été le seul à le prononcer quatre fois. Élu en 1932, 36, 40 et 44, et mort quelques semaines après le début de son quatrième mandat, le 12 avril 1945, pendant plus de 12 ans, il aura profondément marqué le XXe siècle en engageant son pays dans la Deuxième Guerre mondiale. Et l'on comprend pourquoi, au lendemain de sa mort, il y a tout juste 60 ans, avant même les défaites de l'Allemagne, de l'Italie et du Japon, qui auraient été impossibles sans les États-Unis, partout, à Washington, à Londres, à Moscou ou à Paris, on rendait hommage à celui qui avait fait de son pays la plus grande puissance du monde.
Aujourd'hui, Paris manifeste à nouveau sa fidélité à une amitié vieille de plus d'un siècle. L'avenue de Tokyo se nommera avenue de New York. Et l'avenue Victor-Emmanuel devient aujourd'hui l'avenue du président Roosevelt. Le gouvernement français et la municipalité parisienne se sont unis pour rendre cet hommage au plus grand homme d'État qu'aient possédé les États-Unis depuis 100 ans. Roosevelt, qui sut voir juste dans les desseins du monde, Roosevelt, qui sut être l'apôtre des démocraties, avait déjà sa place dans tous les cœurs français. Il l'a aujourd'hui au cœur de Paris.
André Caspi, bonjour.
Bonjour.
Alors, au moment où l'on célèbre le 60e anniversaire de la libération des camps et dans quelques jours celui de la capitulation allemande, on oublie un petit peu qu'il y a 60 ans aussi, quelques jours avant la victoire alliée en Europe, mourait celui qui en avait été un des principaux artisans, Franklin Roosevelt. Roosevelt auquel vous avez consacré il y a quelques années une belle biographie. Qu'est-ce qui fait de lui un des plus grands présidents des États-Unis, comme on vient de l'entendre dans cet archive de 1945?
Tout d'abord, le fait qu'il a été président pendant 12 ans, de 1933 jusqu'en 1945. Et je vous fais remarquer que ça correspond exactement aux dates du règne de Hitler. Mais la grande différence, c'est que aux États-Unis, c'est la démocratie qui triomphe, en Allemagne, c'est le totalitarisme. La deuxième raison, c'est que...
12 ans, je vous interromps, André Caspi, parce que 12 ans, ça veut dire qu'il s'est présenté quatre fois. Personne n'avait osé le faire avant lui, puisque Washington, le premier président, ne s'est présenté que deux fois, et personne ne l'a fait après lui.
Après 1951, la Constitution l'interdit. Mais rien auparavant n'interdisait un président d'être candidat deux fois, trois fois, quatre fois. Simplement, on suivait le précédent qui avait été instauré par George Washington entre 1789 et 1797. Mais la deuxième raison qui fait que Roosevelt est le grand président du XXe siècle, c'est qu'il a conduit ses compatriotes à travers une crise économique et sociale d'une très grande profondeur, que l'on qualifie de New Deal, et nous verrons tout à l'heure pourquoi. Et puis c'est lui aussi qui a mené les États-Unis à la victoire, et en même temps que les États-Unis, qui a créé, en somme, le monde libre, et notamment l'Organisation des Nations Unies.
Il y a peut-être sa personnalité aussi, son charisme, et même son courage devant les difficultés, y compris ce que vous appelez vous-même, André Caspi, le plus grand drame de sa vie, c'est la paralysie qui le frappe. Il a 39 ans, c'est en 1921, il est
atteint par la poliomyélite.
Oui, alors aujourd'hui ça peut paraître étonnant, mais la poliomyélite frappait et frappait beaucoup en ce temps-là. Or, lorsque Roosevelt est atteint de poliomyélite, il a 39 ans, il a déjà une carrière politique derrière lui. Il a déjà été sénateur de l'État de New York, il a été secrétaire assistant à la marine de 1913 jusqu'en 1920.
C'était la Première Guerre mondiale.
Et en 1920, il a même été candidat démocrate à la vice-présidence, battu certes, mais cela veut dire qu'il avait atteint le sommet de la vie politique aux États-Unis. Et c'est à ce moment-là que la poliomyélite le frappe. Ce qui veut dire qu'à partir de 1921, il est handicapé. Il ne peut plus se servir de ses deux jambes. Et lorsqu'il se déplace, c'est avec des armatures métalliques particulièrement lourdes et gênantes, au bras d'un garde du corps ou au bras de son fils. Il dissimule son infirmité. Et au fond, pendant 12 ans, les États-Unis ont été gouvernés par un handicapé. Et je crois que c'est quelque chose dont on n'a pas bien pris conscience.
Et handicapé qui surmonte son handicap, puisqu'en 1929, au moment où les États-Unis sont frappés par la plus grande crise économique de leur histoire, il est élu gouverneur de l'État de New York. Et là, à nouveau, il fait preuve d'une grande vitalité, puisqu'au fond, devant la passivité des pouvoirs publics, de la présidence de Hoover, lui, il fait dans l'État de New York, comme gouverneur, ce qu'il fera plus tard, comme président des États-Unis.
Oui, parce que la ville de New York et l'État de New York ont été frappés, eux aussi, par la crise qui commence en octobre 1929. Le nombre des chômeurs est considérable, et en même temps que le chômage croît, on constate qu'il n'y a pas de véritables mesures qui soient faites pour aider les chômeurs. Alors, ce que Franklin Roosevelt tente, c'est précisément de mettre en place dans l'État de New York des structures qui permettent de surmonter cette crise économique et sociale, au moins dans les territoires de l'État. Et à partir de 1933, cette expérience new-yorkaise, il la transpose au niveau national.
Alors c'est dans une Amérique en crise grave, qui compte 13 millions de chômeurs, vous le rappelez dans plusieurs livres, André Caspi, le quart de la population active, c'est quand même pas rien, que Roosevelt donc devient le candidat démocrate à la Maison-Blanche. Il est largement élu avec 57% des voix face au président sortant, le 8 novembre 1932, et 4 mois avant son investiture et ce discours destiné à rassurer une Amérique en crise depuis plus de 3 ans, c'était le jour où Roosevelt prêtait serment, le 4 avril 1933.
This is a day of national consecration. And I am certain that on this...
C'est un jour de consécration nationale. Et je suis certain qu'en ce jour, mes compatriotes américains attendent qu'au moment où je deviens président, je prenne les décisions que nécessite la situation actuelle. Mais d'abord, laissez-moi vous dire ma conviction. La seule chose dont nous ayons à avoir peur, c'est la peur elle-même, la peur irraisonnée et injustifiée qui paralyse tous les efforts pour transformer le recul en progrès.
Et c'était Franklin Roosevelt le 4 mars, et non pas le 4 avril 1933, le jour de son investiture, de son entrée à la Maison Blanche, et disant en substance aux Américains, n'ayez pas peur, hein, ni Jean-Paul II, ni Jacques Chirac n'ont inventé quelque chose là.
Et il faut dire qu'il y avait de quoi avoir peur, parce que 25% de chômeurs par rapport à la population active, c'est quand même un pourcentage considérable et dramatique. Et en même temps, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas, au niveau national, de traitement social du chômage qui soit mis en place. C'est-à-dire que les chômeurs sont réduits à demander de la nourriture dans les rues, à aller dans les soupes populaires, à vendre des pommes dans les rues de New York, par exemple.
C'est-à-dire, dans le pays le plus riche du monde dans les années 20.
C'est-à-dire que c'est quelque chose qui frappe les Américains d'une manière extrêmement brutale. Et depuis 1929... les États-Unis ne parviennent pas à surmonter la crise. C'est de cela que les Américains ont peur. Parce que c'est aussi une époque au cours de laquelle des Américains meurent de faim. Et non seulement meurent de faim, mais à côté de ceux qui meurent, il y a tous ceux qui sont sous-alimentés. On n'a qu'à regarder les photographies de cette époque. Les gens sont maigres. C'est-à-dire que c'est tout à fait différent des États-Unis d'aujourd'hui où le grand problème est l'obésité. En ce temps-là, le problème, c'est précisément la famine et la sous-alimentation.
Est-ce que, quand il dit « n'ayez pas peur » ou plutôt « la seule chose dont vous deviez avoir peur, c'est la peur elle-même », c'est pas pour les rassurer aussi devant les mesures qu'il a déjà annoncées avant même d'être président? Il parle pour la première fois de « New Deal », de nouvelles distributions et d'une politique radicalement différente de celle que pratiquaient traditionnellement les États-Unis depuis des années, André Caspi.
À vrai dire, les Américains attendent justement que le président prenne des mesures. C'est même la raison pour laquelle le président Hoover, qui était à la Maison Blanche, a été si largement battu. C'est parce que Hoover n'a pas pris de mesures, ou pas pris de mesures suffisantes. On attend donc beaucoup de la part de Roosevelt. On ne sait pas très bien quelles sont les mesures qu'il va prendre. Et d'ailleurs, lui-même est prêt à prendre des mesures qui sont parfois très contradictoires. Ce qu'il veut, c'est sortir le pays de la crise, et le sortir par tous les moyens, à condition que la démocratie soit respectée. Et c'est là, en somme, la grande différence avec les régimes fascistes de l'époque ou les régimes totalitaires.
Et cela suppose une intervention de l'État, on s'en doute, qui dès 1933 se fait aussi bien au niveau local qu'à l'échelle nationale, avec quelques premiers succès.
Pour remédier au chômage qui sévit durement à Chicago, les édiles de la grande cité industrielle ont décidé de refaire le pavage de plusieurs grandes artères et d'y employer les sans-travail. Mais ce n'est pas seulement pour le maigre salaire qui leur est alloué que tous ces malheureux se soumettent à un travail auquel ils ne sont pas accoutumés. L'hiver avance menaçant et le froid est un ennemi presque aussi redoutable que la faim. Les unes après les autres, les banques américaines rouvrent leurs portes et la crise financière américaine semble devoir prendre fin bientôt, du moins en apparence. L'énergique intervention du président Roosevelt a conjuré la panique et laisse espérer une solution satisfaisante du grave problème financier américain.
Once I built a railroad, made it run, made it race against time. Once I built a railroad, now it's done. Brother, can you spare a dime? Once I built a tower to the sun, brick and rivet and lime. Once I built a tower, now it's done. Brother, can you spare a dime? Once in khaki suit, gee, we look swell, full of that Yankee doodly-dum. A half a million boots went slugging through hell, and I was the kid with a drum. Why, say, don't you remember, they call me Al. Why, it was Al all the time. Why, say, can't you remember, why, I'm your pal. Buddy, can you spare a dime? Once I built a tower to the sun, brick and rivet and lime. Yes, I built that tower, now it's done. Brother, can you spare a dime?
Dominant d'histoire aujourd'hui Roosevelt avec André Caspi et cette chanson Brother Can You Spare a Dime de Phil Harris, une chanson très célèbre, un peu la chanson de la crise de 29 et du New Deal. André Caspi, elle était enregistrée d'ailleurs en 1933, l'année où Roosevelt arrive à la Maison Blanche, donc avec ce programme qu'on appelle le New Deal, qui suppose, c'est quoi, parce qu'il y a beaucoup de mesures, peut-être les énumérer tout à l'heure, mais l'esprit général du New Deal.
L'esprit général du New Deal pourrait se résumer en deux expressions. La première expression, tout d'abord, c'est que le gouvernement fédéral prend l'initiative. Il ne laisse pas l'initiative privée dominer parce qu'elle a échoué. Il ne demande pas aux États fédérés de tenir le premier rôle, mais contrairement à toute l'histoire des États-Unis, c'est désormais à Washington que se situe le centre des décisions.
C'est une révolution. Hein.
C'est une révolution, en effet, à la fois politique, économique et sociale. Et puis, ce qui caractérise également le New Deal, c'est qu'on essaye des solutions extrêmement diverses, c'est-à-dire des solutions dirigistes, des solutions qui supposent l'accord des différents partenaires, des solutions qui sont parfois déflationnistes, d'autres qui sont inflationnistes. Il faut essayer, il faut essayer. Il faut surtout, en somme, dans un premier temps, essayer de traiter le chômage sur un plan économique. Plus tard, ce sera le traitement social.
Il s'agit aussi, grosso modo, de relancer l'économie en relançant la consommation des Américains. Alors, ce qui suppose, bien sûr, une fragilisation de la monnaie, on va fabriquer de la monnaie.
Oui.
C'est pourquoi les premières mesures, on a entendu dans l'archive d'ailleurs qui précédait, ont été des mesures sur les banques. Il y a eu le Banking Act qui était destiné à assainir le système bancaire. Il y aura aussi très vite, dès 1933, une loi sur l'agriculture, l'AAA, Agricultural Adjustment Act, pour cette fois-ci éviter la surproduction qui avait provoqué l'effondrement des prix agricoles, la misère des agriculteurs, le NIRA sur l'industrie. Là, il s'agit au contraire de relancer la production industrielle, le tout aussi par une politique très volontariste de grands travaux. Parmi les mesures que vous mentionnez dans vos livres, André Caspi, il y a par exemple la TVA, la Tennessee Valley Authority, pour construire, pour aménager le fleuve Tennessee par la construction de 20 barrages. Il y a eu des tas d'initiatives, on poussait les Américains, il y a eu plusieurs millions d'Américains qui construisaient des routes, des ponts, des aéroports.
Oui, mais ce qu'il faut bien signaler, c'est que toutes ces mesures sont adoptées par le Congrès à la demande du président dans les 100 premiers jours de la présidence, c'est-à-dire entre le 4 mars et la mi-juin. Et lorsque l'on parle aujourd'hui des 100 premiers jours d'un ministère, on ne fait pas allusion à l'épopée napoléonienne, qui d'ailleurs s'est terminée à Waterloo. On fait allusion, en fait, à cette décision de la part de Roosevelt d'agir vite et dans tous les domaines. Et lorsque il met en place, par exemple, la Tennessee Valley Authority, c'est une mesure qui ressemble dans un certain sens au collectivisme. C'est presque une mesure socialiste. C'est en tout cas une mesure planificatrice qui touche à la fois l'irrigation, l'électrification, la mise en valeur des campagnes, pour le mieux-être de tous ceux qui habitent le sud des États-Unis.
Il y a d'ailleurs des résistances, il y avait des Américains qui l'accusaient d'être collectiviste, pourquoi pas communiste aussi. Il y a eu la résistance notamment d'une institution qui est très importante, qui est tout simplement la Cour suprême, qui a condamné plusieurs décisions. Là, il s'en moque un peu. Il est tellement populaire. D'ailleurs, il sera réélu, encore une fois, on l'a dit, en 36. Il sera réélu en 40. Il s'en moque un peu. Je crois qu'il menace, d'ailleurs, les juges de la Cour suprême d'augmenter leur nombre.
Mais il ne le fait pas.
Il ne le fait pas.
Il ne le fait pas. Parce que, malgré tout, il faut tenir compte de l'électorat. Et même s'il sait qu'il sera réélu en 1936, en 1940, il avait déjà quelques difficultés parce qu'il brisait un tabou. Il était candidat pour la troisième fois. Alors en 1940, il a surtout insisté sur le fait que la situation en Europe était extrêmement périlleuse. Évidemment, c'était entre l'armistice que la France venait de signer et l'entrée en guerre de l'Union soviétique. Bref, ça fait beaucoup de choses. Ouais. Mais si vous voulez, il a le sentiment que il ne faut pas aller trop loin. Il sait jusqu'à quel point il peut aller.
Le bilan est quand même mitigé. Bien sûr que ça a redressé les choses. L'industrie retrouve son niveau de 29 en 1939. Mais en revanche, le chômage reste considérable. Près de 10 millions de chômeurs encore.
Oui, mais il ne faut pas oublier qu'entre-temps, la population active a augmenté. Mais c'est vrai que si on compare 1933, 13 millions de chômeurs, et 1939, 9 ou 10 millions de chômeurs, on peut dire qu'il y a des progrès, mais des progrès qui sont relativement limités. Et ce qui va véritablement changer la donne, c'est l'entrée en guerre des États-Unis en décembre 1941, lorsque les hommes sont appelés sous les drapeaux, et que là, il faut une main-d'œuvre abondante. Et pourquoi pas, on fait appel aux femmes.
Décembre 41, c'est effectivement le mois où Roosevelt, le lendemain de l'attaque de Pearl Harbor, annonçait que les États-Unis déclaraient la guerre au Japon.
December 7, 1941, a date which will live in infamy.
Le 7 décembre 1941, une date qui demeurera dans l'infamie. Les États-Unis ont été attaqués sans sommation par les forces navales et aériennes de l'Empire japonais. Je demande au Congrès de déclarer qu'un état de guerre existe entre les États-Unis et l'Empire du Japon.
Et c'était le discours historique de Roosevelt le 8 décembre 41, le lendemain de l'attaque japonaise sur Pearl Harbor, faisant entrer son pays en guerre et dans la guerre mondiale, puisque en déclarant la guerre au Japon, du même coup, l'Italie et l'Allemagne, qui sont les alliés du Japon, déclarent à leur tour la guerre aux États-Unis. Deux ans après, quand même, son déclenchement, le déclenchement de la guerre mondiale, oui, dans les Caspilles. Pendant deux ans, les États-Unis ne sont pas entrés dans le conflit.
C'est vrai ce que vous dites, mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier qu'en 1939, l'opinion américaine, dans sa grande majorité, était isolationniste. C'est-à-dire, elle ne voulait pas prendre part aux affaires de l'Europe et certainement pas non plus aux grandes affaires de l'Asie. Mais petit à petit, Franklin Roosevelt a éduqué les Américains. Il les a peu à peu convaincus qu'il était indispensable pour les États-Unis, pour leur sécurité, pour leur défense nationale, d'abord d'aider matériellement l'Angleterre, notamment lorsque l'Angleterre est seule, entre juin 1940 et juin 1941, à combattre l'Allemagne nazie, et qu'il faut en somme se préparer petit à petit à faire entrer les États-Unis. Mais en fin de compte, ce qui brise les dernières forces de l'isolationnisme, c'est le raid japonais sur Pearl Harbor le 7 décembre 1941.
Au point que certains ont dit que Roosevelt était au courant, avait laissé faire pour justifier l'entrée en guerre des États-Unis.
Oui, mais vous savez, toutes les grandes décisions font l'objet de théories de complot, hein, et par conséquent, ça n'est pas extraordinaire. Mais je signale à ce propos-là qu'il y a eu 8 enquêtes qui ont suivi le raid japonais sur Pearl Harbor, 8 enquêtes américaines, et que toutes les enquêtes ont conclu qu'en effet, on s'attendait à une attaque japonaise, mais on ne savait pas où elle aurait lieu, ni quand elle aurait lieu.
Alors, cela dit, une fois que les États-Unis entrent en guerre, bon, d'abord, l'armée américaine, c'est rien du tout, hein, en 1941.
C'est la 17e armée du monde.
Ouais. Donc, il va falloir un effort considérable, ça va s'appeler le Victory Programme, le programme pour la victoire, dans lequel les Américains vont mettre des moyens extraordinaires à leur service et au service des alliés. Là, vous citez quand même les chiffres, c'est impressionnant, en l'espace de 3 ans, 90 000 chars, 170 000 avions, 65 000 bateaux. Là, le poids des Américains et s'est fait sentir d'une manière considérable.
Les Américains ont deux avantages dans cette affaire. La première, c'est qu'ils ont une industrie puissante, une industrie qui a été atteinte par la crise, mais qui est prête à la conversion pour faire pour transformer en somme l'industrie de paix en une industrie de guerre. Et le deuxième avantage des Américains, c'est que leur territoire n'est pas envahi. C'est-à-dire qu'ils ont en somme la possibilité de donner libre cours à leurs forces industrielles. Et heureusement, ils ne s'en privent pas.
Alors, comme pour le New Deal, André Caspi, il s'agit d'une vraie révolution. Le New Deal, c'était un État intervenant dans les affaires de l'économie, alors que jusque-là, ça ne s'était jamais fait. On était en plein libéralisme. En ce qui concerne la politique étrangère, voilà un pays isolationniste qui, par l'intermédiaire de Roosevelt, entre en guerre, intervient, et Roosevelt prévoyait même d'intervenir dans les affaires de l'Europe et du monde, beaucoup plus que le faisaient les États-Unis avant. On verra à Yalta, par exemple, qui sera la dernière apparition de Roosevelt.
Oui, alors ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la guerre que mènent les Américains est une guerre sur deux fronts. C'est-à-dire d'une part, c'est une guerre en Europe, et d'autre part, c'est une guerre dans le Pacifique. Ça veut dire que désormais, dès que la victoire est atteinte, les États-Unis sont une superpuissance planétaire. Et en face d'eux, il n'y a qu'une seule autre superpuissance, c'est l'Union soviétique. Et l'Union soviétique qui a largement contribué à la victoire en Europe, qui n'a pas beaucoup fait contre le Japon, car n'oubliez pas qu'elle entre en guerre le 8 août 1945 seulement, et les autres puissances sont désormais réduites à un rôle bien moindre.
Alors cela dit, cette victoire, Roosevelt ne la verra pas, il meurt épuisé il y a 60 ans, le 12 avril 1945.
Franklin Roosevelt, 4 fois président des États-Unis, disparaît à la veille d'une victoire qu'il avait voulu et préparée. Voici 3 mois, surmontant sa fatigue, il faisait le long voyage de Yalta. Et de retour à Washington, il proclamait devant le Congrès américain les résultats d'une conférence au cours de laquelle ont été jetées pour l'avenir les bases d'un monde meilleur.
That better world in which our children and grandchildren.
Ce monde meilleur dans lequel nos enfants et petits-enfants, ceux du monde entier, doivent vivre et peuvent vivre.
Le monde meilleur dont parlait Roosevelt peu de temps avant sa mort, il y a 60 ans, le 12 avril 45, eh bien, il ne le verra pas, André Caspi, puisqu'il est mort justement avant la victoire en Europe et la victoire sur le Japon en septembre 45. Qu'est-ce qui reste? Quel bilan peut-on faire de ces 12 années de présence à la Maison-Blanche?
Ben, je dirais que, tout d'abord, il a renforcé la présidence. Et cette présidence est devenue, d'ailleurs, par la suite, une présidence impériale. D'autre part, il est responsable du rôle grandissant de l'État fédéral. Désormais, Washington, c'est non seulement la capitale officielle, mais c'est véritablement le lieu dans lequel se prennent les décisions les plus importantes aux États-Unis. Troisièmement, il a fait de son pays l'une des deux superpuissances. Et dans cette guerre froide qui s'annonce et qui va prendre l'ampleur que l'on sait, désormais, les États-Unis sont à la tête du monde libre. Mmh. Et tout cela, on le doit à Franklin Roosevelt. Alors que ses successeurs aient à la fois approfondi son héritage ou les limité dans certains domaines, c'est incontestable. Mais il n'empêche que pour ces trois raisons-là, Franklin Roosevelt a véritablement marqué d'une empreinte très profonde l'histoire du monde au XXe siècle.
Merci André Caspi. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur d'une biographie de Roosevelt, Franklin Roosevelt, un livre des références dont je recommande la lecture et qui a été publié il y a quelque temps déjà aux éditions Fayard. Vous êtes également l'auteur d'une histoire des Américains en deux volumes, Les Américains, publié aux éditions du Seuil dans les collections Point Histoire. À lire également, toujours sur les États-Unis, mais sur une autre époque, un excellent numéro thématique d'Historia consacré à la guerre de sécession. Vous avez pu entendre deux archives pâtées de 1945, disponibles en vidéo aux éditions Montparnasse, dans les collections Le Journal de votre année, ainsi qu'une archive tirée de l'encyclopédie sonore Bordas, Mémoire du XXe siècle, éditée par Bordas. Ces références sont disponibles au 32-30, 34 centimes la minute, ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Cécile Bonhomme, Claire Destacan et Claire Tesser, ainsi qu'à Gilles Davidas pour la réalisation de cette émission. Dans 2000 ans d'histoire, l'aventure du pétrole. Mais tout de suite, à 14h30 sur France Inter, on n'a pas de pétrole, mais on a Eric Oswald.
C'est énorme, merci Patrice.